Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
D'accord, arrivons à notre deuxième étude du Cantique des Cantiques. Le premier rendez-vous est bien apporté sur un titre. Nous l'avions intitulé tout simplement l'assurance de l'amour. Et puis cette fois-ci, nous allons parler de la bannière de l'amour pour cette deuxième étude. Alors, on va ouvrir le livre des Cantiques des Cantiques. Et je voudrais faire une courte lecture. Alors c'est une lecture que je vais faire en partie parce que on va aller probablement un petit peu plus loin sur davantage de versets, davantage de phrases. Mais bon, on va faire simplement une introduction avec cette lecture. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 12. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, notre lit c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Et dans le chapitre 2, simplement, je lirai cette deuxième partie du verset 4. « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Voilà. Je rappelle le principe de notre étude ce soir, puisqu'il s'agit d'une analogie, on peut peut-être nommer les choses ainsi, à travers les personnages. D'abord, le roi Salomon, le roi terrestre, et puis Sulamite, qui est une bergère, une jeune fille, jeune, belle, convoitée par le roi, avec comparaison que nous pouvons faire avec Christ, qui lui est le roi céleste, et son Église, que nous avons appelée aussi l'épouse ou la fiancée. Alors, on a bien compris, Salomon, l'image de Christ, et Sulamite, cette jeune fille, c'est l'Église. Voilà. Ceci dit, c'est simplement un rappel pour nous remémorer un peu les choses que nous avions mises en place la dernière fois. Alors, c'est Sulamite, donc la jeune fille, maintenant qui reprend la parole au verset 12 et 14. Je le relis. « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'En-Gedi. » Alors, si je reprends ces paroles, « tandis que le roi est dans son entourage », la traduction nous dit « tandis que le roi est à table en compagnie ». Alors, c'est vrai que quand on est à table, on n'est peut-être pas tout seul, il y a un entourage. La pensée est la même. Maintenant, lorsque nous faisons la transposition sur Jésus, nous comprenons que Jésus a souvent été représenté autour d'une table, avec un entourage. Il était entouré, soit de ses disciples, ou lorsqu'il était invité dans des maisons, de ses hôtes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, il nous est donné une représentation de Christ. Il nous est dit à un moment donné, vous allez vous en souvenir, là où on lui fit un souper et Lazare était à table avec lui. C'est simplement une idée, c'est simplement une pensée pour nous montrer que très souvent on a retrouvé Jésus là dans un entourage avec des amis. Ceci nous amène à considérer la Sainte Cène, c'est-à-dire à la scène et particulièrement la dernière. On voit Jean, l'apôtre, se penchait sur la poitrine du maître. Ailleurs, c'est Marie assise qui écoute au pied de Jésus et s'instruit. C'est encore Marie, dans un autre passage, qui verse le parfum de nard de grand prix sur la tête de Jésus. Au dernier repas, Jésus rassemble autour de lui ses amis et invite à sa table le monde entier. Et nous pouvons dire que cette table, cette sainte cène que nous avons l'habitude de partager ensemble, eh bien, c'est en quelque sorte la commémoration et le souvenir qu'il est le roi crucifié. Je dis bien le roi crucifié. Et nous connaissons naturellement, eh bien, l'emblème de cette démarche du repas de Sainte-Cène. Je vais un peu plus loin, il nous est dit, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose. » Voilà. La myrrhe a aussi, eh bien, un sens qui évoque quelque chose de particulier, qui évoque les souffrances de Christ pour l'Église. Alors, vous avez bien compris, hein ? On avance avec le poème et on le transpose dans toutes les figures de l'Évangile. Vous allez voir, il y a des choses qui sont assez étonnantes et extraordinaires. Je le rappelle au passage. Donc, la myrrhe, c'est la mort de Christ, en quelque sorte, dans son embaumement. Dans la nuit de nos douleurs et de nos souffrances, il est bon de se souvenir que notre roi céleste à nous, a payé le prix de notre délivrance. Et on peut respirer la myrrhe, parce que c'est une gomme odoriférante. Voilà, le mot n'est pas facile, mais on le dit quand même. Au pouvoir revigorant dans toutes nos afflictions et y retrouver l'espérance. Et c'est quand même à travers la mort de Jésus qui nous donne l'espérance de la vie. C'est ça ce qui est à souligner. Alors naturellement, la myrrhe est prise comme emblème, naturellement, on l'a compris. Parce que Christ est véritablement la solution pour les gens qui espèrent en lui, pour les hommes qui espèrent en lui, pour les chrétiens que nous sommes. Ensuite va s'exprimer l'époux, donc Salomon, au verset 15. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » Arrêtons-nous sur cette petit oiseau qu'est la colombe. Et la colombe est le symbole de l'innocence et de la paix. Pour nous dire, s'il y a un message que ce texte nous délivre, c'est que Christ a innocenté l'Église. Vous vous souvenez la première fois, pour ceux qui étaient là, Tsunamite va dire « Je suis noire, mais je suis belle. » Parce que on peut être entaché par le péché, mais à cause de Christ qui est venu nous purifier, qui est venu nous justifier, donc nous innocenter, eh bien Dieu maintenant voit son Église comme belle, même si elle est noire. Ça, c'était un point fort de notre message précédent. Donc Christ a innocenté l'Église et il a fait d'elle une messagère de paix pour l'annoncer à la terre entière. C'est-à-dire que l'image qui pourrait nous être donnée, c'est que l'Église était en quelque sorte une colombe. Elle a été purifiée, elle a été justifiée, elle a été innocentée, mais sa mission, c'est une mission de paix dans le monde, pas de guerre. Et vous comprendrez qu'une Église chrétienne qui a participé à toutes les guerres et tous les combats sur tous les champs de bataille n'a rien à voir avec une colombe et n'a rien à voir avec, finalement, le message de paix. Mais c'est une mission périlleuse pour l'Église d'annoncer la paix. Parce que nous annonçons aussi son prince, celui qui est appelé le prince de la paix. Mission périlleuse s'il en est de prêcher la paix dans un monde de guerre. Le prophète Ésaïe cite, et il dit ceci, « Je gémissais comme une colombe. » Ce sont des textes bibliques, naturellement. Et l'Église, ambassadrice de son roi céleste, Christ, gémit et a besoin de consolation au milieu d'hommes injustes et méchants. Ça, c'est notre part. Je vous envoie comme, eh bien là, des brebis au milieu des loups. Ouais. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Citation de Jésus dans l'évangile de Luc. Si nous allons plus loin, nous retrouvons ces emblèmes et ces symboles dans l'évangile. Cette colombe est descendue une première fois ainsi. Je cite. Les cieux s'ouvrirent. Et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous vous souvenez de ça? Ce sont des associations d'idées que je suis en train de faire. Parce que c'est ce que nous délivre le livre, finalement, des Cantiques des Cantiques. Alors, Tsunamite, pour revenir à cette belle jeune fille, à cette bergère, eh bien, sera sobre en contemplant celui qu'elle aime. Et le verset 17 l'exprime, 16 et 17, « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. » Qu'est-ce qu'elle veut dire? Son bien-aimé est plein de beauté. Il est aimable, il est agréable, et son royaume dans lequel quiconque y est invité est présenté à la voix sous l'image du repos, parce qu'elle le dit, notre lit c'est la verdure. C'est le caractère de Christ qui apparaît à ce moment-là, doux et humble de cœur. Le royaume de Dieu est une oasis au milieu d'un monde aride et desséché, et sous l'image d'une maison solide et somptueuse, puisque Tsunamite dira « les solives sont des cèdres », qui font que les paroles et les promesses de Dieu sont la structure, en d'autres termes, la charpente du royaume, de son royaume, dont Christ est le roi, et des structures, une charpente sûre et inébranlable. Elle dit ceci, nos lambris sont des cyprès. On sait que le cyprès est un bois noble et ornemental, de grande richesse que constitue le royaume de Dieu. C'est-à-dire une beauté intérieure qui est faite de grâce, qui est faite de paix, de joie, de pardon et d'amour fraternel, un trésor de vérité et de justice, lambrissé de nobles vertus. Nous avons le roi, Christ, comme Salomon était dans son palais d'ivoire, dans son palais somptueux. Nous avons un roi et son royaume, et tout est fondé avec une structure qui est solide, qui est la parole de Dieu, à travers des paroles, à travers des promesses, et c'est une grande richesse que ce royaume. Nous allons lire maintenant dans le chapitre 2, nous allons aller un peu plus loin, et il est dit ceci, verset premier, « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Alors on sait que ce sont des fleurs typiques du pays d'Israël, et Jésus en a parlé. Et si nous voulons transporter, ça veut dire tout simplement « je suis la foi », et je vais vous expliquer pourquoi. « Je suis la foi » comme la fleur, narcisse ou lys, qui s'épanouit dans le Saron, qui est une région d'Israël. C'est-à-dire qui est une plaine fertile. Et au fond, des vallées arrosées, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui peut prédisposer, à l'émerveillement et à la beauté. Une des plus magnifiques fleurs que l'Église éclot au contact de son Seigneur, c'est la foi. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi, c'est Moïse. Aujourd'hui, c'est la foi. C'est elle qui domine, c'est elle qui prédomine. Et cette foi dans l'Église éclot, je le répète, au contact de son Seigneur, c'est la foi dont le parfum fait ouvrir les mains de Dieu pour distribuer ses trésors. C'est-à-dire que parce que l'Église s'approche de son Christ, de son Sauveur, de son Époux, la seule chose que Dieu va agréer, c'est tout simplement notre foi. Et cette foi va ouvrir, tout simplement les trésors divins, les mains de Dieu, pour apporter la bénédiction. C'est une vue très poétique, je vous l'accorde, mais c'est ce que nous pouvons nous approprier dans la compréhension du Cantique des Cantiques, entre autres, dans ce chapitre. C'est encore la foi qui fera dire à Jésus toute son admiration à une femme étrangère que l'on appelle la Cananéenne, et aussi à un Romain, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc c'est aussi, des paroles, en effet, qui mettent en valeur, nous pourrions dire, je suis un narcisse de Saron et un lys des vallées. comme quoi la fleur de la foi peut passer là où on l'attend le moins, pousser là où on l'attend le moins, c'est-à-dire dans un monde tel que le nôtre. Toutefois, c'est encore dans l'Église qu'on s'attend à la trouver, parce que si on ne trouve pas la foi dans l'Église, où va-t-on la trouver ? Et là où est l'Église, là se trouve Christ. Et c'est lui qui va développer notre foi, à travers sa parole dont nous allons nous nourrir, qui va être en quelque sorte, eh bien, notre terreau, on pourrait dire, qui va être notre le sol nourricier, et c'est là où justement, eh bien, va se trouver véritablement cette foi qui va aller en grandissant. Et voilà que dans le deuxième verset, c'est l'intervention de l'époux, c'est Salomon. « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Le lys dont Jésus a parlé dans le sermon sur la montagne en faisant cette comparaison pour nous exhorter à la foi et à la confiance et bannir l'inquiétude de nos cœurs, quand il dira « Regardez les lys des champs, ils ne filent, et je vous dis que pourtant, même Salomon, parce que c'est une référence également à ce que nous sommes en train de... Même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été aussi vêtu, aussi magnifiquement que les lys que vous voyez là, et bien à vos pieds. Cela illustre bien l'exemple de la foi en Dieu face aux soucis, aux inquiétudes, aux épines et à toutes les angoisses qui existent sur cette terre. L'Église semblable au lys au milieu du monde qui est rempli d'épines, eh bien cette Église possède l'assurance et la certitude parmi l'incrédulité et l'hostilité de son environnement. Et ça c'est quelque chose. C'est ce qui fait que nous avions nommé notre première étude et puis une partie de celle-ci, l'assurance de l'amour. Et si nous avons ces certitudes dans notre cœur, alors à ce moment-là, eh bien... C'est quelque chose d'une grande importance, ce qui, d'autant, fait ressortir toute sa beauté. N'oublions jamais que pour gagner son épouse, c'est-à-dire l'Église, Christ a porté, non une couronne de roi, mais une couronne d'épines. C'est à travers son sacrifice, y compris ses flagellations, ses souffrances, qu'aujourd'hui nous sommes devenus, eh bien, sa bien-aimée. Au verset 3, « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Tsunamite dit « Comme le pommier, tel est mon bien-aimé. » Christ est comparé à un arbre magnifique pour sa floraison. Et vous savez que au printemps, qui tarde, mais c'est là où les arbres sont les plus beaux. Hein. Le pommier, en fleurs par exemple. Et il est naturellement magnifique également par sa floraison, mais il est magnifique également pour la saveur de son fruit. L'Église, comme Tsunamite, peut affirmer trouver son plaisir à son ombre. C'est à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à l'ombre de Christ que nous nous réfugions. C'est à l'ombre de la croix. On pourrait multiplier naturellement eh bien, les comparaisons. Parce qu'il y a là l'assurance de la sécurité et de la protection, et de pouvoir ainsi se délecter à la douceur de son fruit. Parce que le fruit de Christ, eh bien, c'est Galates, chapitre 5 et verset 20, l'amour, la joie, la paix, la douceur, etc., etc., il y a tous ces fruits qui sont à notre disposition. Et de se délecter, c'est ce qui fait véritablement, eh bien, la beauté de l'Église. Et c'est ce qui fait que, à travers le fruit, du Saint-Esprit, nous pouvons grandir et nous pouvons le communiquer aussi en témoignage aux autres. Il y a cette douceur et cette humilité de Christ, donc son caractère, dont nous sommes appelés par la sanctification, par la régénération, par la nouvelle naissance, à nous revêtir et de pouvoir être remarqués comme étant les disciples de Jésus-Christ authentiquement, parce que nous portons son fruit. En plus, Christ est offert à notre espérance comme l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, le fruit s'appelle tout simplement la vie éternelle. C'est ça ce que nous avons reçu. Je continue. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Les besoins de la jeune fille Tsunamite ont été longuement satisfaits près de son époux. Maintenant, elle est conduite à la pleine jouissance des grâces de l'amour préparées pour elle. Alors il y a tout un cheminement naturellement qui se dévoile à ce moment-là. Je le répète, Tsunamite a trouvé son plaisir dans son fiancé. Et elle est préparée justement pour l'épouser. Nous sommes à l'époque des fiançailles, nous pourrions dire. Et maintenant, dans le suite que nous allons découvrir, elle est conduite à la pleine jouissance des grâces que procure l'amour, parce que tout ça, ça a été préparé pour elle, comme Christ nous a préparé, des choses extraordinaires dont nous avons déjà le bénéfice maintenant, mais dont nous aurons aussi le bénéfice, eh bien, plus tard. Et il nous est dit tout simplement dans ce texte, alors à ce moment-là, elle a été conduite dans la maison du vin. Le vin est l'emblème de la joie dans la Bible, naturellement. Et ce n'est plus seulement, comme nous l'avons vu la fois précédente, où elle était couverte de baisers, où il y avait les parfums les plus suaves qui lui étaient proposés, la chambre royale, puisqu'il nous est dit qu'elle a été conduite dans la chambre royale, les compliments, les joyaux, les colliers, les chaînes d'or, la table du roi dont nous avons parlé il y a un moment, son entourage, le nard de grand prix, la myrrhe, son ombre ou son fruit, mais maintenant elle va le découvrir lui-même. C'est plus ce qu'il donne, mais c'est ce qu'il est. Et c'est bien la dimension, finalement, eh bien, dans laquelle l'Église doit comprendre les choses. Lorsque nous nous réunissons en culte, nous avons deux choses que nous pouvons faire. Nous pouvons remercier le Seigneur pour ce qu'il donne. Et là, c'est du domaine de la louange, de l'action de grâce et du remerciement. Mais nous sommes invités à rentrer dans nos cultes plus loin, à rentrer dans la dimension de l'adoration, et ce n'est plus pour ce qu'il nous donne que nous nous approchons de Dieu et que nous le contemplons, mais c'est pour ce qu'il est. Ça, c'est autre chose. L'adoration nous conduit à adorer Dieu pour ce qu'il est, qu'il donne ou qu'il donne pas. Et c'est là où justement nous allons rentrer maintenant dans la chambre, dans le palais et dans la chambre du roi. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est une belle image pour démontrer que Christ ne peut se contenter que de ce que l'Église, que l'Église ne peut se contenter que de ce que Christ lui donne et lui procure, mais elle doit se réjouir de ce qu'il est, entre autres, son Sauveur et son Seigneur. Et les meilleures expériences de réception et d'exaucement, qui sont quand même des preuves d'amour de la part de notre Dieu, ont leurs limites. Il y a meilleur encore, c'est la jouissance et la plénitude des bénédictions spirituelles et célestes. C'est ce dont Paul nous parle à un moment donné dans Corinthiens, quand il nous dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel et qu'il a vu des choses ineffables qu'il ne peut pas raconter. Pour goûter à cela, un secret, c'est l'amour. Il y a la foi nécessaire, mais il y a une autre dimension, c'est l'amour. Être assuré que Christ nous aime et avoir cette certitude aussi nous-mêmes, eh bien que nous l'aimons. Donc l'amour. Et c'est pourquoi il est dit, mais la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Une bannière est évocatrice de victoire, de triomphe. Le message universel, c'est que Christ, roi et époux, a triomphé de tout par la seule vraie puissance qui est l'amour. Et c'est par l'amour qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu la haine et qu'il a vaincu, eh bien, la mort. Cette victoire est unique par le fait que ce n'est pas avec le sang des autres, comme les rois de la terre, qui envoient des soldats pour leur royaume ou pour leur empire, mais la seule différence, c'est que ce n'est pas avec le sang des autres que cette victoire et ce triomphe a été remporté, mais c'est en versant son propre sang. Pour tous. Pour sauver qui ? Ben pour sauver l'Église que nous sommes. Ouais. Christ est mort pour les hommes du monde entier, mais particulièrement, et ça c'est Paul qui le rappelle, il est mort pour le salut, la rédemption et la gloire de son Église. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Et l'apôtre Pierre, dira ceci dans son épître, sachant que ce n'est pas avec les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ. Ou encore un autre texte, l'Église qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est ça la valeur. Et dans cet écrin, que représente en quelque sorte le sacrifice volontaire de Christ, au cœur il y a son amour. Et il y a l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La raison et la cause d'un tel sacrifice ne peut s'expliquer que par le sentiment qui a présidé à la création de toute chose, c'est le cœur même de Dieu. Et il nous est dit dans une des épîtres que Dieu est amour. Donc nous sommes même au cœur là de cette explication du Cantique des Cantiques. L'Église élève une bannière sur laquelle il y a cette inscription, comme nous le trouvons dans Jérémie chapitre 3 et verset 13, ou verset 3, chapitre 31 et verset 3, pardon, je le mets à l'envers, où il est écrit sur cette bannière que porte et élève l'Église, et c'est Dieu qui parle, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'Église sait qu'elle est aimée, et est-ce que nous, en tant que membres de l'Église, nous allons répondre eh bien à cet écho, ou à cet appel, à cet amour. Nous allons aller un peu plus loin, à travers le chapitre 2, toujours, et nous allons rentrer dans une autre dimension que nous pourrons appeler, que nous développerons la prochaine fois, quand l'amour s'éveille. Une nouvelle scène se lève sur l'amour du roi et de Tsunamite. La précédente image évoquait avec beaucoup de poésie les relations nuptiales qui étaient progressives et passionnelles entre cet époux royal et la jeune bergère sans fortune. C'était leur intime présence l'un auprès de l'autre. C'est ce que nous avons vu dans les premiers éléments de cette étude. Maintenant, le bien-aimé a disparu et il est parti. Et il n'a pas laissé celle qu'il aime, parce que le temps n'est pas encore prêt pour le mariage. Ils se sont vus, ils se sont rencontrés. Le roi était pris d'amour pour cette jeune fille. Elle se laisse emporter dans ce mouvement. Mais le temps de l'union n'est pas encore prêt. Et vous allez voir que ça va nous faire rentrer dans la dimension de ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Alors il va partir. Il va disparaître. Elle ne va plus le voir. Elle va le chercher partout. Et dans cette séparation, l'amour va grandir. Parce qu'il va stimuler, finalement, eh bien, ses sentiments. On peut aimer quelqu'un qui est au côté de soi, mais il est au côté de nous. Et quand il est parti, eh bien, on y pense à chaque instant. On rêve de le revoir ou de la revoir, naturellement. Et c'est l'absence. Pendant ce temps, Tsunamite s'est endormie dans l'assurance que par amour, il reviendra. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous anticipez un petit peu, hein? Qu'il reviendra vers elle. Alors elle l'attend et elle rêve. Alors elle raconte. Ici, nous rejoignons la parabole de Jésus qui parle des 10 vierges, de 10 jeunes filles allant à la rencontre d'un époux préparé pour le jour de noces. Dixit Matthieu, chapitre 25. Versets premiers et les versets suivants. Connaissez les textes, hein? C'est une parabole que Jésus nous laisse. Ou encore d'un homme qui part pour un grand voyage pour une durée indéterminée. Jésus le raconte aussi dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Un roi qui va partir, ou un homme maître de maison qui va partir, et il va laisser toute sa maison. Il va laisser, si c'est un roi, son royaume à ses serviteurs en disant « Prenez-en soin ». Et il va laisser, à l'un l'intendance de ceci, à l'autre l'intendance de cela, etc. Vous connaissez cette histoire, naturellement. Personne ne sait quand celui qui part reviendra. Personne ne sait quand le roi reviendra. Personne ne sait, à l'image du roi Salomon, quand il reviendra vers Tsunamite. Ces petites histoires situent l'idée principale, à savoir l'attente de l'Église, donc Tsunamite, et le retour de Christ, Jésus. Le retour de Christ, donc l'époux. Les temps s'écoulent, mais l'heure du retour n'est pas encore tout à fait arrivée, c'est pourquoi le verset 7 prévient, et Tsunamite dit « Je vous en conjure, Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Et vous trouverez cette phrase au moins 3 fois dans toute l'histoire du Cantique des Cantiques. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. La comparaison avec la gazelle ou la biche, qui sont des animaux craintifs et vite effarouchés, illustre qu'il faut si peu pour troubler les sentiments ou le repos de l'amour. Ouais. L'amour est quelque chose de fragile. C'est quelque chose de très sensible. L'amour peut être contrarié, il peut être blessé, il peut être piétiné. Un véritable amour est à cette sensibilité. Et c'est pour ça que c'est comparé à une biche. Ou à tout simplement une gazelle. Dès qu'elle a peur, elle se sauve. Elle disparaît, elle se perd dans la forêt, vous comprenez? Eh bien, il faut peu de choses pour véritablement effaroucher l'amour. Qu'il faut si peu, naturellement, pour que l'Église, en l'absence de son Sauveur, ne soit vite troublée. C'est ce que nous sommes à même de vivre, hein. Chacun d'entre nous, l'Église universelle en général, mais également chacun d'entre nous, dans nos craintes et nos peurs que nous pouvons avoir, notre conscience qui parle, à travers nos inquiétudes, à travers peut-être des bruits que nous avons entendus, à travers la culpabilité, à travers toutes sortes de mouvements comme cela qui nous effarouchent en disant « Mais Seigneur, pardonne-moi, ou j'ai péché, ou ceci et cela. » On ne veut pas casser cet amour, vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est véritablement converti, quelqu'un qui est né de nouveau, ne veut pas faire de la peine. On ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Alors on est vite troublé. Position si précaire de l'épouse qui continue à aimer par la foi, c'est-à-dire l'Église continue à aimer sans voir celui qui a disparu, celui qui est parti, celui qui est monté au ciel après sa crucifixion, après sa résurrection. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui parle au fond de notre cœur, parce que sa parole nous l'affirme, et nous le croyons, c'est qu'il va revenir. Il reviendra, et nous l'attendons dans l'amour. Nous l'attendons pas dans la crainte, nous l'attendons dans l'amour parce qu'il nous a fait la promesse qu'il reviendra chercher son Église et emporter son Église sans voir, sa seule force est de croire que ce qu'il nous a dit, il va l'accomplir. Je vous ai préparé une place et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, vous connaissez naturellement ça aussi. Et notre seule force pour l'Église est de croire bien qu'il va revenir, alors que rien ne la trouble, cette Église. La sensibilité que nous pouvons avoir au fond de notre cœur, c'est pourquoi Tsunami dira « Mais ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Attention, il y a un temps à tout. Les choses vont se faire, mais ne réveillez pas l'amour. Que rien n'inquiète l'amour, si vous voulez, parce que l'amour espère. » L'amour est plein d'espérance. Soudain, l'épouse sursaute, le verset 8. « C'est la voix de mon bien-aimé, crie-t-elle. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Le voici, il revient. » Elle l'aperçoit dans le lointain qui approche, mais avant, il y a un petit retour en arrière à faire pour la compréhension de la suite. La première partie de ce que nous avons étudié se déroulait dans le palais royal. Cette fois, durant l'absence, Tsunamite est retournée dans sa pauvre maison, elle, la bergère, la Cendrillon. Oui. Elle a vu ce qu'était le palais, elle a vu ce qu'étaient les splendeurs. On l'a paré d'or et d'argent, on lui a donné des parfums, on lui a donné des colliers, on l'a vu la première fois. Alors, comme il n'est plus là, elle va retourner à sa première condition. Elle part avec le sentiment d'être aimée. Elle part avec le sentiment et la certitude qu'elle aime aussi son bien-aimé. Mais comme il n'est plus là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas rester dans le palais. Elle va retourner donc dans sa cabane, si vous voulez. Et l'Église a connu, pour nous dire, l'Église a connu les chambres du roi. Chacun d'entre nous, nous avons connu les chambres du roi lorsque nous nous sommes convertis, que l'Esprit de Dieu est venu sur nous lorsqu'il nous a baptisés du Saint-Esprit, qu'il nous a donné des exaucements extraordinaires. Mais ça, ce n'était pas à continuer tous les jours. Mais nous avons été transportés, nous avons été émerveillés. Nous avons fait cette expérience, c'est pour ça que nous l'aimons. Les temps de réveil, ou les souffles du Saint-Esprit que nous avons connus les uns et les autres, on pourrait tous en parler en disant « Mais Si aujourd'hui je suis chrétien, c'est parce que le ciel s'est ouvert dans ma vie. Quand j'ai eu le sentiment d'avoir été pardonné complètement et totalement de mes péchés, que le fardeau est tombé de mes épaules, mais quel soulagement, quel bonheur! C'était déjà le ciel sur la terre. Alors c'est vrai, l'Église a connu les chambres du roi, ce que l'on peut appeler les temps forts d'intimité et les grandes bénédictions sur notre vie. Mais, disons-le, l'époux est parti, elle connaît ses heures de solitude à ce moment-là. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne. Il y a des temps de l'esprit et puis il y a des temps où nous marchons comme dans un désert. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas à côté de nous. C'est que nous ne le voyons pas et nous languissons. Nous, parfois, nous pouvons désespérer en Seigneur. Je te cherche. Montre-moi que tu es présent. J'ai tellement besoin de toi. Donc l'Église connaît aussi ses heures de solitude. Elle connaît ses heures de pauvreté. Elle connaît aussi ses torpeurs spirituelles parce qu'à force d'attente, on s'endort. Oui, on peut s'endormir. C'est la nuit où chacun, en l'absence du maître, retourne à ses occupations d'avant. Oui, d'avant. Vous vous souvenez les exemples qui nous sont donnés de ceux qui ont connu Jésus dans son intimité, dans sa proximité, qui ont entendu des messages ineffables, qui ont vu des miracles, les morts ressuscités, l'eau changée en vin, les pains multipliés. Vous connaissez cet exemple? L'exemple des apôtres désappointés, troublés dans leur espérance. Comme cela nous est dit dans Jean chapitre 29 et verset 3, Simon-Pierre dit à ses compagnons, après la résurrection, « Je vais pêcher » et ils sortirent dans une barque. Résultat, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Mais l'époux est proche à la porte, il va se montrer sur le rivage bientôt. Comprenez? Il est retourné à son travail, Pierre. Qu'est-ce que nous allons faire? Le maître est parti. Jésus, notre ami. Alors, il est mort, il est ressuscité, mais où est-il? Et ils étaient complètement décontenancés, ils ne savaient plus du tout où ils en étaient. Qu'est-ce que nous allons faire? Sans Jésus, qu'est-ce que nous pouvons faire? On ne peut rien faire. Alors, il est retourné à sa barque, comme au premier jour où il a dit, connaissez, quand Jésus l'a appelé, allez, laisse tout et viens, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Mais à la fin, Pierre est retourné à ce qu'il avait été au départ. Et l'amour est confondu parfois dans le doute ou par le doute. Et quelquefois ce doute, c'est dans le cœur d'un chrétien ou dans le cœur de l'Église, mais s'il ne revenait pas. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont abandonné l'idée que Jésus va revenir, hein. Même parmi les chrétiens, même parmi les dénominations chrétiennes. Alors, on se renferme dans sa maison comme Tsunamite. On retourne à sa barque comme Pierre. Et le feu du premier amour s'estompe. Le niveau spirituel et d'espérance s'abaisse et on s'endort. En attendant, on retourne à ce qu'on était ou ce qu'on faisait avant. C'est peut-être comme un état rétrograde. Oui, peut-être. Je dis bien peut-être. C'est le reproche que l'Esprit va faire à l'Église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ou l'Église de Laodicée, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien je te vomirai de ma bouche. Et tu dis, tu es riche, tu es ceci et cela, mais tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es rien du tout. Toutefois, toute somnolente soit-elle, l'épouse reconnaît la voix, cette voix toujours reconnaissable pour tous ceux qui l'ont entendue et qui l'ont connue. Cette voix, c'est Jean qui l'a reconnue le premier dans cette fameuse journée où ils sont allés pêcher dans le lac de Tibériade, au moment de la pêche infructueuse. Et Jean, à ce moment-là, au petit matin, à l'aube, à l'aurore, va voir une silhouette arriver marchant sur le lac, ou marchant sur le rivage plutôt. Et il dira, mais c'est le Seigneur, parce que lui avait bien entendu la voix du Christ, de l'époux. Il avait bien entendu la voix de Jésus, il la connaissait. Il s'était tellement penché près de sa poitrine, il connaissait le souffle même de cette voix. Alors, elle a résonné cette voix, comme un réveil, sortant tout à coup les disciples de leur découragement. Et à ce moment-là, Jésus leur a répondu, « Venez et mangez, et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'est le Seigneur. » Vous avez remarqué la manière dont nous avançons, livre du Cantique des Cantiques, et puis également l'Évangile. Parce que c'est ça justement, toute la beauté de ce livre. C'était le Seigneur. Quel espoir nous avons partout où la voix la parole a été imprimée dans les esprits des hommes, eh bien partout où cette voix a été imprimée, dans le cœur, dans la conscience, dans l'esprit des hommes, elle surgira au moment du réveil. Et ça sera peut-être justement, eh bien, au bénéfice de tous les rétrogrades égarés qui se souviendront à ce moment-là. C'est l'espoir pour chacun d'entre nous, en prêchant la parole, que de toute façon, elle ne sera pas oubliée parce que c'est le Saint-Esprit qui va réveiller les cœurs et les consciences. Les brebis connaissent la voix du bon berger. Oui. Tous les enfants ou tous les enfants de chrétiens récalcitrants entendront cette voix parce qu'elle est imprimée, même s'ils ne l'ont pas entendue depuis longtemps, même s'ils l'ont oubliée, elle résonnera à ce moment-là. Tous les croyants assoupis des derniers temps et des dernières heures. Et ça sera l'ultime choix, parce que nous la reconnaîtrons, cette voix. Comme les disciples dans la barque ont reconnu Jésus. Ils n'osaient pas lui poser la question « Mais qui es-tu ?» mais ils le savaient. Vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit et de la parole de Dieu a tellement imprimé nos vies au fond de nos cœurs que nous saurons reconnaître, que nous savons reconnaître. Cette voix dit qu'il vient. Cette voix nous dit qu'il est proche et qu'il est temps de réveiller, de nous réveiller ou de réveiller nos affections en nous entretenant sur les promesses de son retour. Et il nous est dit, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, pour nous dire que rien n'arrêtera l'époux dans son élan, tous les obstacles, les collines et les montagnes, s'évanouirent, ou vont s'évanouir. Quatre fois, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, je viens bientôt, je viens vite. Les noces de l'agneau sont en préparation. Je vais m'arrêter là ce soir. On continuera parce qu'il y a encore des trésors formidables à découvrir. Et la particularité du Cantique des Cantiques, c'est précisément cette analogie qu'il faut faire avec les évangiles. Salomon, le roi terrestre, Tsunamite, la fiancée, c'est l'Église. C'est la fiancée, c'est l'Église. Christ. Et puis, naturellement, son corps, que nous représentons à travers, eh bien, ce que nous sommes les uns et les autres. Et vous verrez que tout est imprégné et tout est baigné de cet amour. Et la prochaine fois, je vous l'ai dit, eh bien, puisqu'il y a eu assoupissement, puisque l'Église semble dormir, eh bien, nous parlerons quand l'amour s'éveille. Et vous avez à travers les textes suffisamment de choses pour nous montrer qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir un souffle qui va passer. Et Tsunamite va se révéler, comme l'Église va se réveiller. La prochaine étude que nous ferons, eh bien, nous la ferons le mercredi 17 avril, donc à 20h, et nous continuerons. Je pense que nous avons encore beaucoup de choses à dire, et au fil des chapitres et verset par verset, il y a des choses qui sont formidables et merveilleuses. Faut-il que notre âme soit éveillée justement à ces textes poétiques? C'est pas toujours facile, et puis c'est à l'oriental aussi. Mais nous les comprenons, ils sont mis en lumière particulièrement lorsque nous les mettons en comparaison avec ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire la vie de Christ, tout ce que Jésus a fait en tant que, eh bien, l'époux, pour ce que nous sommes, nous, l'Église. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que s'il y a quelque chose qui domine dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'histoire particulièrement du Nouveau Testament à travers le summum, à travers en effet, Seigneur, le point culminant qui est le don de Jésus-Christ fait à la terre, à travers la crucifixion, à travers la résurrection, et puis tout ce qui en découle, c'est-à-dire ton prochain retour. Alors s'il y a une chose véritablement qui doit marquer, qui doit nous toucher, qui doit nous interpeller, qui doit nous amener à une profonde réflexion, eh bien c'est l'amour de Dieu. Oui Seigneur, nous avons été créés dans l'amour. Nous sommes faits pour l'amour. Nous sommes des créatures, Seigneur, qui ont besoin d'être aimées. Et nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, à quelque niveau que ce soit. Mais une chose qui est certaine, Seigneur, c'est lorsque nous avons véritablement réalisé, Seigneur, cette grâce insigne, cette grâce qui n'a pas de pareil, alors à ce moment-là, nous pouvons être confus et nous dire, mais comment ai-je pu être aimé? Comment, Seigneur, que tu te souviennes de l'homme Comment tu peux, en effet, avoir déployé, Seigneur, une telle grâce en donnant ce que tu avais le plus précieux? Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. Merci parce que cette histoire de Salomon, cette histoire de Tsunamite, c'est aussi l'histoire de notre Christ, de notre Sauveur, et c'est aussi l'histoire de l'Église. Et nous pouvons dire, Père éternel, que c'est la plus belle de toutes les histoires qui n'ait jamais, en effet, existé dans ce monde, sur cette terre, dans tous les temps. Merci, Seigneur.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.